Ce n'est pas à conseiller. Non pas l'achat d'un GoPro, ça, j'ai pas voulu faire de la pub pour GoPro, mais simplement d'essayer de faire cela, je dirais non, merci. Moi, j'ai vu ça maintenant plusieurs fois et j'ai toujours des mains un peu mouillées là. J'arrive pas à regarder ça sans avoir de la crainte. Ça, c'est l'exception qui fait la règle. On est tous d'accord. Si Daniel, chapitre 6, est l'une des histoires les plus connues de la Bible, adorée, oui, par les enfants, c'est parce que nous avons du mal à croire ce que nous venons de voir sur l'écran, que cela peut avoir lieu. Non, de manière générale, non. Croire que Daniel pourrait se retrouver dans une fosse aux lions qui ont faim pendant toute une nuit et vivre, sont tellement peu probables que cette histoire capte bien, je pense, notre imagination, n'est-ce pas? Mais le plus qu'on devient grand, le plus qu'on devient aussi cynique, réaliste, le plus qu'a priori, je pense que nous rejetons de telles histoires comme des contes, simplement. Ce qui serait une erreur, chers amis. Car le livre de Daniel n'est pas écrit pour des enfants, mais plutôt pour des exilés. Daniel, et maintenant ses amis ne sont plus avec lui, il nous semble. Daniel se trouve à Babylone, rappelons-nous, loin de chez lui, d'Israël, de Jérusalem. Il avait été déporté par des Babyloniens. Au début du chapitre 6, par contre, ce n'est plus des Babyloniens au pouvoir, car l'empire babylonien a été conquis par les Médo-Perses. Et c'est Darius, au chapitre 6, le Mède, qui est au sommet. C'est lui le roi. Et l'histoire profane ne nous dit rien à propos de Darius, à un point que certaines personnes pensent que Darius doit être Cyrus, le Perse, lui qui est très connu comme étant l'empereur des Mèdes et des Perses. D'ailleurs, si vous avez lu dans le second 21, je vois que c'était quelques personnes ont fait cela dans cette Bible blanche qu'il y avait sur la chaise. Vous allez voir qu'eux, ils ont interprété le verset 29 dans ce sens-là. Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius, dit le second 21, c'est-à-dire le règne de Cyrus le Perse. Bon, c'est possible que ça signifie cela, mais c'est également possible que Darius, lui, soit un général qui a conduit l'opération de la prise de Babylone et qui régnait pour une période assez courte, d'un an, avant que Cyrus lui-même devienne le roi. En tant que vassal de Cyrus, il nous semble. Donc, soit que ça soit l'un ou l'autre, c'est pas grave. Daniel se trouve sous un nouveau régime politique, avec des nouveaux maîtres médo-perses. Mais vite fait, n'est-ce pas, dans cette histoire, Darius reconnaît le talent exceptionnel de Daniel. On suppose que les nouveaux conquérants avaient la sagesse de demander aux dirigeants de la ville de Babylone qui étaient les hommes bien réputés dans la ville, afin de maintenir la continuité et assurer une administration bien efficace pour cette ville aussi importante. Et donc, du coup, le nom de Daniel, négligé sous le règne de Belshazzar, au chapitre 5, mais bien réputé sous le règne de Nebuchadnezzar, au chapitre 1, 2, 3 et 4, son nom a été soulevé. Et on accorde à Daniel la fonction, d'après le verset 3 du chapitre 6, de l'un des trois chefs du pays, à qui les autres hauts fonctionnaires devaient rendre leur compte. C'était un homme digne de confiance, Daniel. À un point, verset 4, qu'il surpassait les autres. Et par conséquent, le roi pensait à l'établir en tant que premier ministre du royaume. Et c'est à partir de là, je pense, que nous découvrons la pertinence de cette histoire, au chapitre 6 pour nous aujourd'hui, car nous observons environ 2500 plus tard le comportement de Daniel, le comportement du roi Darius, et nous contemplons la main souveraine du Dieu qui sauve et qui délivre. Et de ces trois choses que nous voyons, nous allons tirer des leçons aussi pour nous ce matin. Donc d'abord, premier point, nous observons la fidélité de Daniel malgré la méchanceté autour de lui. Ça dit dans les versets 1 à 14. Car oui, les chefs et les satrapes, les hauts fonctionnaires, ne sont pas heureux d'apprendre l'intention du roi de faire avancer la carrière de Daniel. Daniel qui avait, on pense, à peu près 80 ans à ce stade. Il cherche un motif donc pour accuser Daniel à propos de son travail. A-t-il accumulé, Daniel, des mandats rémunérés, plusieurs à la fois? Y avait-il un peu de fraude fiscale dans son dossier? Oubliait-il de déclarer certaines choses sur sa déclaration des impôts? Y avait-il des plaintes de la part de ses employés? Est-ce que l'historique de son browser au Palais Royal relevait trop de temps sur Facebook pendant les heures de travail? Non, il ne peut trouver, dit le verset 5, aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Quel beau témoignage, n'est-ce pas, qu'on rendait de Daniel. Pourrait-on dire la même chose à votre sujet? Si on regardait votre historique du browser, que ce soit l'ordinateur ou votre smartphone, si on demandait à ceux qui travaillent avec vous, ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec vous, qu'est-ce qu'ils diront à votre sujet? Si on demandait à vos parents, si vous êtes enfant, ou à vos enfants, si vous êtes parents, comment vous vous comportez à la maison? Quel témoignage donneront-ils à votre sujet? Ce n'est pas pour rien que le Nouveau Testament dit qu'un conducteur d'église doit être sans reproche, irréprochable. Cela ne signifie pas parfait à tous égards, mais cette personne ne doit pas avoir de cadavre dans le placard. Des faiblesses évidentes, on pointe le doigt et on dit « un tel a ce rôle dans cette église ». Daniel était fidèle dans sa façon de travailler pour ses maîtres païens. Il s'est donné pour ce travail. Et sa façon de travailler témoignait de sa spiritualité, n'est-ce pas? Pas pour lui de laisser sa foi chrétienne à la maison lorsqu'il prenait la voiture pour se rendre à son lieu de travail. Pas pour lui simplement de reprendre sa foi une fois qu'il se trouvait à l'église ou à la rencontre biblique. J'ai entendu parler récemment d'un chrétien qui s'est fâché lorsqu'on lui donnait pas ce qu'il voulait à une librairie. J'ai entendu parler d'un autre chrétien qui crie sur ses employés au bureau. J'ai entendu aussi parler de quelqu'un d'autre qui gaspille trop de temps sur son écran pendant la nuit. La spiritualité authentique de Daniel était évidente par son exemple, son caractère, son professionnalisme, sa fiabilité. En tant qu'exilé, il s'engageait, lui, dans la vie de la ville de Babylone. Il cherchait le bien de son maître, le roi Darius, tout comme il l'avait fait pour le roi Nebuchadnezzar au chapitre 1, en tant que jeune étudiant. En fait, si vous voulez, il incarne un principe que nous voyons dans le Nouveau Testament, qui parle aussi de ceux qui sont exilés, étrangers, c'est-à-dire des croyants. Si vous voulez juste tourner la page à 1 Pierre chapitre 2, c'est un texte que nous avons déjà eu l'occasion de souligner lorsque nous prêchons à Daniel. Donc à la page, si vous êtes dans cette Bible-ci, c'est à la page 1222, 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyagers sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez, au milieu des païens, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Daniel, oui, ils l'ont calomnié, n'est-ce pas? Comme s'il faisait le mal. Ça, c'est la suite de l'histoire. Ses ennemis, de manière machiavélique, font des manœuvres pour que le roi Darius introduise une loi irrévocable qui interdit toute prière à qui que ce soit d'autre que Darius lui-même pendant une période de 30 jours. C'était malin de leur part. Cela caressait l'ego du roi et cela le coince en même temps. Car les Médo-Perses considéraient que même le roi n'est pas au-dessus de la loi. Cela, en général, c'est un bon principe, n'est-ce pas? Un principe biblique, d'ailleurs. Mais hélas, lorsque la loi elle-même est mauvaise, cela crée du dégât. D'habitude, voyez-vous, nous sommes ceux, si nous sommes croyants, qui doivent se soumettre aux lois du pays. La Bible en parle dans le Nouveau Testament. C'est pour notre bien que les autorités sont en place. Il faut donc obéir aux autorités. Mais dans un monde pervers, taché par la chute de l'homme, parfois ce n'est pas le cas. Parfois l'État, au lieu de promulguer des lois qui défendent le bien, fait le contraire. Cela arrive que l'État interdise quelque chose que l'Écriture ordonne. Que faire à ce moment-là? Ben, si nous sommes croyants, nous devons suivre l'exemple de Daniel. Il faut rester fidèle à Dieu à ce moment-là. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est à ce moment-là que notre allégeance ultime se manifeste, n'est-ce pas? Daniel pouvait raisonner qu'il ne s'agissait rien que 30 jours, cette interdiction. Ce n'était pas comme s'il devait abandonner pour toujours ses croyances. On imagine qu'il aimait bien son travail, parce qu'il avançait bien dans son travail. Fallait-il mettre son poste en danger par désobéissance au roi? Il pouvait choisir donc de rester plutôt discret pendant un temps. Où est le mal à faire cela? Bien sûr, nous dirons tous, je pense que nous préférions ne pas devoir choisir entre Dieu et notre travail. Pourrait-on aujourd'hui être infirmière et ne pas aider proactivement celui qui souhaite mettre un terme à sa vie via l'euthanasie? C'est difficile, d'après ce que je comprends maintenant pour les infirmières chrétienne. On préfère ne pas devoir se positionner parce qu'on aime notre travail. Mais si on doit se positionner, de quel côté tombons-nous? Si c'est un choix entre Dieu et nos amis, ou Dieu et notre propre famille, Dieu et notre gouvernement, on tombe du quel côté? Merci Seigneur que souvent ces deux choses ne sont pas incompatibles. Mais tôt ou tard, dans un monde déchu, dans un domaine ou un autre, nous devons nous positionner comme Daniel devait le faire. Serais-je fidèle à Dieu, peu importe les conséquences, ou plierais-je à la pression d'être conforme à ce que les autres veulent pour moi? Verset 11, « Malgré la loi, Daniel monta dans sa maison, il priait dans la direction de Jérusalem. » C'était bien cela que le roi Salomon avait dit qu'il devait faire. Si vous voulez voir ça, vous pouvez voir 1 Roi chapitre 8 à partir du verset 46. Le fait de se tourner vers Jérusalem était une aide visuelle d'un principe spirituel pour ceux qui se trouvaient en exil. Même s'ils vivaient à Babylone, ils vivaient toujours pour Jérusalem, pour le Dieu qui s'est révélé à l'homme à Jérusalem, au temple. Trois fois par jour, Daniel priait, un homme avec ses responsabilités. À genoux, d'ailleurs. Même si ce n'est pas un point majeur de notre texte, je pense qu'en passant, nous devons remarquer, n'est-ce pas, la fidélité de Daniel dans la prière. La prière personnelle, c'est un indice de notre dépendance de Dieu, même pour un homme aussi haut placé que lui. C'est aussi un indice qui sait que Dieu œuvre puissamment lorsque son peuple prie. La prière, voyez-vous, ce n'est pas une échappatoire pour l'homme, mais un outil puissant utilisé par Dieu. Savez-vous cela, chers amis? Dites-vous de ne pas avoir suffisamment de temps pour prier. Quelqu'un disait que Dieu a inventé Facebook et Twitter pour nous montrer à nous tous que nous avons encore le temps pour lire la Bible et prier. Si je prends autant de temps là-dessus, alors je ne peux pas dire que je n'ai pas le temps pour lire la Bible et pour prier. Priez pour que Dieu soit glorifié lors de notre temps en exil en tant qu'étranger dans ce monde. Priez non plus dans la direction de Jérusalem, mais priez à Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ, en qui Dieu a fait sa demeure permanente parmi les hommes. À coup sûr, le fait d'avoir déjà bien développé cette discipline de prière fait que Daniel la maintient, même quand il apprenait la nouvelle loi. La fin du verset 11 nous dit « comme il le faisait auparavant ». Et donc, il se fait découvrir ensuite par ses ennemis, qui donnent un rapport à Darius. Ils exagèrent les faits dans leurs propos à Darius. Daniel, l'un des déportés de Juda. Oui, on peut entendre un peu le nationalisme derrière cela. Mais il n'a tenu aucun compte de toi. Si, si. Il travaillait fidèlement pour ce roi. Mais le mensonge est mélangé avec vérité pour que ça passe. Il fait sa prière trois fois par jour. Et à partir de ce moment-là, verset 15, l'accent tombe sur la réaction du roi. Donc nous avons vu d'abord la fidélité de Daniel malgré la méchanceté autour de lui. Mais maintenant nous observons chez Darius sa faiblesse. Malgré une apparente puissance. C'est étonnant, en fait, que l'accent reste sur le roi, même au moment que Daniel fut jeté dans la fosse au lion. Est-ce que vous avez vu cela en suivant le texte que nous avons lu? À ce stade, au moment où il est jeté dans la fosse au lion, dans la Bible pour enfants, nous voyons une image de Daniel tranquille avec entouré des lions pacifiques. Magnifique. Mais verset 17, le narratif reste avec le roi. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te sauver. L'ouverture de la fosse est scellée et ensuite, au lieu de nous raconter ce qui arrivait dans la fosse, nous suivons verset 19, le roi au palais. Il passe la nuit à jeûner. Il est tellement préoccupé qu'il n'arrive pas à se servir des plaisirs du palais. Nous dit le texte, il ne pouvait pas dormir même. Il se lève le lendemain à l'aube. Il veut apprendre le destin de Daniel. Verset 21, il a la voix triste. Mais bon, il fait ce qu'il fait. Il s'y rend à l'ouverture pour voir ce qui s'est passé. Il savait que Daniel avait un Dieu qui n'était pas comme les autres. Et donc, il se demande, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Ce roi, voyez-vous, jusque-là, il est troublé. Oui, d'un côté, il a le pouvoir de condamner qui que ce soit à une mort cruelle dans la fosse aux lions. Il peut promulguer de nouvelles lois. Mais le voici tremblant, manipulé par ses fonctionnaires, incapable de sauver l'homme qu'il apprécie, piégé par sa propre stupidité. À un point, nous semble-t-il, qu'il brise lui-même la loi qu'il a instaurée. Ce qu'on peut comprendre, verset 17 comme une prière. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te sauver. Il prie exactement ce qu'il ne devait pas faire d'après cette nouvelle loi. Ce n'est pas certain, en fait, qu'il dit cela. C'est peut-être mieux de le comprendre comme un impératif. Ton Dieu te sauvera. Soit celui qui, en principe, tient la puissance dans ses mains, se révèle faible et impuissant. C'est souvent ainsi, n'est-ce pas? Pour des puissants de ce monde, ils sont plus exposés à la faiblesse, à la difficulté qu'on le pense. Parce qu'il y a toujours des facteurs en dehors de leur contrôle. Il suffit de regarder, si vous voulez bien, le premier ministre britannique actuellement dans la fosse politique, car elle est à la merci des députés qui semblent ne pas vouloir voter pour son accord avec l'Union européenne. Et si on se moque d'elle, mes amis belges, ce n'est pas le premier ministre belge en fonction qui a l'air le plus puissant du monde non plus. Nous sommes bien d'accord. La Bible a d'autres exemples des rois faibles. Je pense à Hérode, lors de la naissance de Jésus. Je pense à l'autre Hérode, face à Jean-Baptiste. Mais suprêmement, nous pensons à ce gouverneur, Pilate, lors du procès de Jésus. Lui qui voulait relâcher Jésus. Et les chefs du peuple juif avaient répondu, « Nous avons une loi !» Et selon cette loi, il doit mourir. Pilate, lui, était troublé et il s'adresse à Jésus en disant, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» L'évangile de Jean, chapitre 19. Jésus lui avait répondu, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Le récit, voyez-vous, de Daniel nous encourage, tant en Daniel que lors du procès de Jésus, de voir que le vrai pouvoir se trouve ailleurs que chez les soi-disant puissants. C'est super important. Important pour nous, des croyants parfois marginalisés, sous pression en tant qu'exilés et étrangers dans ce monde, sous pression de compromis, de relativiser l'importance de la foi chrétienne. Nous avons encore besoin de comprendre et connaître la puissance de Dieu et la faiblesse des hommes. En tant qu'étrangers dans ce monde, la difficulté et la méchanceté nous attend. Pas toujours, à tout moment, mais à coup sûr, de temps en temps, nous le ressentirons. Daniel parle dans la deuxième partie du livre de Daniel. Chapitre 11, verset 33, comme exemple de ceux qui mourront pour leur foi. Et donc, ce n'est pas toujours le cas que Dieu délivre des flammes ou des lions. Mais nous ne devons pas avoir peur de ceux qui tiennent le pouvoir humain. Car ce n'est pas eux qui peuvent nous délivrer, c'est Dieu. Et la délivrance qu'il nous offre est grâce à Jésus. Est sûre et certaine. Et cela nous mène à notre dernier point, donc la délivrance de la part de Dieu, malgré les circonstances peu prometteuses. C'est bien cela que Darius, une fois réconcilié et dans la joie avec Daniel, voulait proclamer. Le Dieu de Daniel, il est le Dieu vivant, il subsiste à jamais. Son royaume, verset 27, ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Pourquoi le sait-il, verset 28? C'est lui qui sauve et qui délivre, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Si vous voulez, pour revenir au langage de 1 Pierre chapitre 2, la bonne conduite de Daniel a eu pour effet que Darius a vu les œuvres bonnes de Daniel et il glorifie Dieu. Ceux qui se sont opposés au Dieu de Daniel se trouvent eux-mêmes, ainsi que leur famille, au fond de la fosse, là où ils succombent rapidement au lion. Oui, une nouvelle fois, la loi des Mèdes et des Perses laisse à désirer que les familles soient aussi impliquées dans cela. Mais toutefois, nous observons donc un renversement total de la situation qui s'est présentée juste avant. Dieu a sauvé Daniel malgré les circonstances peu prometteuses autour de lui, malgré la pierre mise sur l'ouverture de la fosse scellée par l'anneau du roi. Et cette délivrance de Daniel préfigure, bien sûr, la délivrance faite lorsqu'une autre pierre avait été placée à l'ouverture d'un tombeau. Lorsqu'un autre homme irréprochable devait subir une injustice à la main des responsables malhonnêtes. Lorsque cet homme était condamné à mort par un responsable faible et troublé par ce qu'il avait fait. Cet homme n'a pas été épargné de la mort comme Daniel l'était. Mais ensuite avait lieu le signe, le prodige le plus glorieux de tout autre. La pierre a été roulée, le tombeau était vide. Oui, Jésus, voyez-vous, a vaincu la mort. Il est revenu à la vie et c'est grâce à sa mort, son apparente faiblesse, qu'il nous délivre de la mort, du jugement de Dieu, que notre propre péché mérite. Car c'est à la croix qu'il prend sur lui-même le jugement qui devait tomber sur nous. Et c'est bien sa mort qui garantit notre délivrance, sa résurrection qui nous rend à la vie avec Dieu, qui permet notre appartenance au royaume de Dieu, au royaume qui démarre pour nous le moment où nous croyons en Jésus, qui continue au-delà de la mort physique jusqu'à l'éternité. Son royaume, disait Darius, ne sera jamais détruit. La foi, voyez-vous, nous remplit d'une espérance, d'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Peu importe les puissants de ce monde, peu importe les obstacles dans cette vie, peu importe l'opposition que nous pouvons rencontrer, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous délivrera, c'est sûr et certain. Et donc cette histoire de Daniel nous pousse à contempler cette délivrance effectuée par Dieu en Jésus-Christ pour chacun qui croit en lui. Si vous ne connaissez pas cette délivrance pour vous-même, chers amis, c'est à Jésus où il faut aller. Jésus, un sauveur en croix, aussi peu impressionnant que cela peut paraître, c'est lui qui est le plus puissant, qui nous délivre. Et si nous connaissons déjà cette délivrance, prenons courage, les amis, rassemblons-nous autour de cette table dans quelques instants pour proclamer ensemble notre confiance. Oui, le coup de la foi chrétienne est là. Peut-être vous le ressentez aujourd'hui de manière toute particulière. Mais ne faites pas de compromis avec le monde. N'optez pas pour une foi qui cherche le confort et la réussite à tout prix, mais visez la fidélité à Dieu, parce que Dieu nous délivrera. Prions ensemble. Oui, ta parole nous dit, Seigneur, de résister le diable qui rôde comme un lion, que nous puissions donc être fermes en la foi. Sachant que oui, il y a des souffrances qui sont imposées aux chrétiens dans le monde entier. Et nous remettons à toi, le Dieu de toute grâce, pour que tu puisses nous affermir, nous fortifier,
nous rendre inébranlables. À toi, Seigneur, la puissance au siècle des siècles. Amen.